France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on s'attaque à un monument de la pop culture, justement. Une chaîne qui a façonné nos goûts, nos idoles, notre manière même de regarder la musique. Une chaîne qui a fait danser des générations entières devant leur télé et qui s'apprête à tirer sa révérence, MTV. En effet, MTV a annoncé que ses chaînes musicales allaient cesser d'émettre à la fin de l'année 2025. C'est une page qui se tourne, une époque qui s'achève, celle du clip comme rendez-vous, du logo qui s'incrustait sur le coin de l'écran, des animateurs qui parlaient comme des rockstars et des artistes qui devenaient des icônes visuelles avant même parfois de passer en radio. Ce soir, on revient donc sur l'histoire de MTV, son rapport à la musique, son influence sur l'industrie, sur la mode, sur nos imaginaires, de Thriller de Michael Jackson à Smells Like Teen Spirit de Nirvana, de Yo MTV Raps à TRL, de la télé à YouTube, puis aux réseaux sociaux. Comment MTV a-t-elle accompagné et parfois devancé toutes les mutations de la pop culture? Pour en parler, trois journalistes passionnés qui connaissent le sujet comme personne. Olivier Cachin, référence absolue, notre père à tous.
Salut Mehdi.
Nico Pratt, bible de pop culture.
Hello.
Et Jérémy Maire, journaliste qui avait notamment réalisé une série pour Télérama sur l'histoire du clip.
Bonjour, merci.
Avec plaisir. Alors que reste-t-il de MTV aujourd'hui, notre manière de vivre la musique, et que nous dit sa fin sur l'évolution du rapport entre image, artiste et public? C'est ce qu'on va explorer ensemble à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Donc je l'ai dit, enfin je l'ai un peu dit en introduction, Paramount Global met fin à ses chaînes musicales MTV. À partir du 31 décembre 2025 en Europe, il restera seul MTV HD qui restera active au Royaume-Uni, qui sera centré sur la télé-réalité. On en parlera, qui a été une autre orientation de MTV. Mais donc la chaîne MTV, elle est créée en 1980 aux États-Unis et c'est au départ une chaîne 24 heures sur 24 de clips musicaux. Qu'est-ce qui explique le succès immédiat de MTV, Olivier?
Ben déjà pour la symbolique, c'est quand même une chaîne qui s'ouvre avec Video Kill de Radio Stars.
Tout à fait. Qu'on va écouter après.
Voilà, il y a quelque chose d'assez énorme. Ben, c'est en fait la confirmation de quelque chose qui existe depuis les années 60 avec les Scopitone en France ou les petits films. C'est-à-dire que l'image est quelque chose qui est essentiel dans le monde du rock et MTV va aller encore plus loin puisque ça va générer en fait la création de ce qui était avant un petit truc des créations de centaines de milliers de dollars, des clips pas toujours réussis et certains historiques. Enfin ça va être une vraie révolution, ça va annoncer les années 80 en fait.
Comment on consommait la musique avant MTV, en tout cas en termes d'image, Jérémy?
En termes d'image, je sais qu'il y a déjà, effectivement, Olivier l'a dit, il y a les
Scopitone exactement,
en France, ouais. Mais ça c'est vraiment un truc franco-français, mais c'est marrant que, ouais, de se dire que le clip finalement est peut-être né en France, ouais, avant de renaître aux États-Unis. Mais effectivement, ouais, on consommait la musique sans forcément des images, mais il y a beaucoup le cinéma, les comédies musicales qui ont beaucoup influencé le clip, parce qu'au début c'était vraiment des espèces de remake de West Side Story ou de comédie musicale à l'américaine, donc c'est beaucoup comme ça. Et puis quelques clips avant l'heure qui émergent, Bob Dylan, ouais, avec l'inventeur du lyrics vidéo, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, Bob Dylan, et puis Bohemian Rhapsody de Queen, qui est aussi un clip avant l'heure assez incroyable à la fin des années 70, avant même MTV.
Mais on n'est pas encore dans une forme d'industrialisation.
Non, pas du tout. C'est des choses qui sont, alors pour les prémices du vidéoclip, qui sont vraiment des objets ponctuels pour certains artistes, qui sont vraiment, enfin, des artistes un peu à part entière. Ouais. Et puis la comédie musicale, qui elle est pour le coup un vrai genre cinématographique en soi.
À quel moment aussi l'industrie, peut-être musicale, comprend que le clip est un outil commercial, Nico? Parce que c'est aussi à ce moment-là que on parle d'industrialisation et que ça devient vraiment un outil de marketing, en fait.
Bah honnêtement, elle le comprend pas tout de suite. On va pas se mentir. La première année de MTV, les labels comprenaient pas vraiment pourquoi ils devaient fournir à leurs frais, parce que pour le coup, MTV ne payait absolument rien dans la création des clips, devaient fournir à leurs frais de quoi alimenter toute une antenne toute la journée.
Et puis, alors que, pardon, je me permets de dire, Rapline, l'émission que Olivier animé, payer l'équipe des rappeurs français à l'époque.
Ah bah oui.
Voilà, donc je tiens à le préciser.
Et puis les débuts ont été compliqués aussi parce que mine de rien, quand ça arrive en 1981, qui fait des clips à ce moment-là, qui a les moyens de faire des clips? Rod Stewart, qui est déjà très très ringard, éventuellement un groupe comme REO, Speedwagon ou autre, mais mine de rien, c'est pas du tout une urgence pour les groupes. L'urgence pour les groupes, c'est bien davantage d'enregistrer et de tourner. Donc finalement, MTV, en visant un public jeune, il faut pas l'oublier, on est au début des années 80, le concept même de jeunesse, il est encore relativement récent, c'est-à-dire que le concept de jeunesse, il existe à partir d'Elvis Presley, Et en début des années 80, la jeunesse cool, elle se retrouve devant Top of the Pops, il y avait déjà Top of the
Pops,
l'émission anglaise exactement, devant le Saturday Night Live, mais mine de rien, une chaîne qui appartient aux jeunes, à ce moment-là, ça n'existe pas pleinement.
Alors il y a plein d'artistes bien sûr qui vont être les visages en tout cas de MTV qui vont embrasser un peu cette chaîne-là, notamment par exemple Madonna. Like a Virgin de Madonna, une icône des années 80, 90, 2000, une icône tout court. Est-ce que c'est aussi un des visages marquants justement de cette décennie et de cette chaîne au départ, Olivier?
Oui, c'est vraiment un des emblèmes. Madonna, c'est, certains diront même à l'époque, sans se douter qu'elle sera encore là 40 ans plus tard, c'est une création MTV, parce que c'est vrai que c'est quand même... et puis ce côté provocation light, on n'est quand même pas dans... C'est pas du hardcore rap, mais enfin, il y a quand même le côté, on joue avec la religion, on joue avec le sexe, tout en restant quand même assez grand public, True Blue, tout ça. Donc oui, ça représente très bien cette décennie-là et ce qu'a représenté cette chaîne avec des artistes comme Madonna, enfin il y en a eu d'autres, Tom Petty, Smith, enfin tous qui ont quand même la particularité d'être très très pâles, si tu veux.
On va en parler, clairement une critique avec ce titre à MTV, on va en parler après. Nico, tu voulais intervenir?
Ce titre-là, Like a Virgin, c'est 1984, c'est également l'année de Purple Rain, c'est également l'année de Born in the USA et c'est l'année des premiers MTV Video Music Awards.
Tout à fait.
Donc en fait, c'est vraiment peut-être la chanson emblématique et comme le disait très bien Olivier, Madonna, c'est la star MTV et c'est le moment où finalement, ça arrive assez tôt dans l'histoire d'MTV, où ils commencent à créer leurs propres événements, leurs propres stars, et donc quelque part c'est peut-être aussi un petit peu le début de la fin parce qu'ils commencent à créer leur propre concurrence.
Oui, Jérémy, toi qui as réfléchi, qui a documenté l'histoire du clip, à quoi ils ressemblent ces clips au début? Parce que bien sûr quand on pense à des clips surprenants, je l'ai cité, on pense évidemment à Michael Jackson, et en tout cas sur les années 80 bien sûr, mais est-ce qu'il y a un effort visuel au départ? On filme juste des gens qui chantent? À quoi ça ressemble au départ?
Au début, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des gens qu'on filme en train de chanter. Et puis, je parlais tout à l'heure des comédies musicales, c'était aussi un peu ça. C'était un peu ce qu'on avait dans l'idée à l'époque. Une chorégraphie, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui lip-sync sur de la danse. Et en fait, on pourrait sans doute avoir des contre-exemples, parce que Video Kills de Radio Star, c'est aussi un contre-exemple, parce que c'est pas ni inspiré de Broadway, ni de ça, mais effectivement, tu l'as dit, tu l'as cité fréquemment, mais Michael Jackson arrive quand même.
C'est une révolution, en fait.
C'est
vraiment
une révolution.
À l'époque, ça n'existe pas, des courts-métrages comme ça.
On pense à Thriller, mais avant, il y a quand même
Billie Jean,
évidemment, et qui sont vraiment des choses qui mêlent à la fois la danse, le lip-sync, la comédie, et donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'on commence vraiment à réfléchir de manière cinématographique et artistique le vidéoclip.
Olivier, toi qui connais bien le sujet Michael Jackson, qui a écrit un ou plusieurs livres, même, je crois, sur Michael.
En principal, mais...
Notamment un que j'avais lu à l'époque. Qu'est-ce qui change, justement, effectivement? Parce qu'il y a une... au-delà de l'ambition, il y a aussi un réalisateur comme John Landis qui réalise Thriller, donc un réalisateur
de
cinéma, et puis très en vogue à cette époque-là, vraiment, qui enchaîne les succès. Qu'est-ce que ça change dans l'approche aussi qu'on va avoir de l'objet clip?
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que pour que ça existe, alors c'était Steve Barron qui a fait la première de Billie Jean, après effectivement John Landis qui a fait Thriller, c'est que pour que ça existe, il faut que ça soit diffusé, parce que le truc, c'est que, on l'évoquait il y a un instant, à l'époque, la programmation, elle est rock, elle est blanche, elle est... et quand... alors, parce qu'il faut donner justice à cet homme, Walter Yetnikoff, un homme de l'ombre qui était le patron de CBS, et quand il va voir MTV, on lui dit ça n'est pas notre format. On rappelle qu'à ce moment-là, Michael Jackson numéro 1 des charts pop, des charts R&B, des charts disco, des programmations, de tout. Albums, singles, partout. Et donc, c'est lui qui va aller voir le patron et qui va lui dire, je t'explique, si jamais tu passes pas le clip de mon artiste, que tu dis qu'il c'est parce qu'il est noir, en fait, c'est ça. Moi, je sais pas s'il est noir, blanc, gris, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'il est numéro 1 et que si tu le passes pas, je vais dire au monde entier que t'es un putain de raciste et que tu veux pas le passer parce qu'il est noir. Non, mais attends. Bon, et évidemment, on connaît la suite, Ils vont diffuser Billie Jean, ça va être un succès énorme et ça arrivera à Thriller. Mais c'est quand même Michael qui a ouvert la porte à la musique noire, au rap, parce que le truc, c'était comme pour Rolling Stone le magazine, d'ailleurs, à l'époque, ils disaient, non mais on met pas des artistes de R&B en couverture très souvent, on a déjà mis Michael Jackson en couvre, quand il était enfant. Donc, Michael était effectivement un moment décisif de l'histoire de MTV, parce que c'est cette bascule qui va faire que tout d'un coup, ben, ce qui était impossible devient possible grâce à Michael.
Bon, on continue en tout cas à parler de MTV, juste après un morceau qui n'a pas encore de clip, mais qui est déjà un tube. Je crois que c'est le morceau numéro 1 du pays au moment où on se parle. C'est le morceau de This Is et Théodora, Mélo Drama.
VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Surtout sous les yeux, babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux, mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je suis dans le bulle d'hiver, je suis dans un étoile, mais je repense à hier. T'as l'air hier, c'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam.
Du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
DC's et Théodora, le morceau s'appelle Mélodrama et sera disponible sur le prochain album de DC's.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
On en parlait il y a quelques instants justement sur le fait qu'MTV était assez blanche au début, assez pâle pour reprendre tes termes, et quelqu'un était d'accord avec toi évidemment, c'est David Bowie.
I'd like to ask you something, honestly, you know, all right. It occurred to me, having watched MTV over the last few months, that it's a solid enterprise with it, and it's got a lot going for it. I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that?
Donc David Bowie qui reproche à MTV d'avoir peu d'artistes noirs. Donc c'est aussi à ce moment-là que la programmation d'MTV va changer, Nico.
Les programmateurs à la base, ils viennent quand même de la bande FM. Donc leur culture est plutôt rock et l'identité d'MTV à la base est plutôt rock. Et c'est vrai que quand arrive Michael Jackson, il fallait déjà toute la puissance de Michael Jackson, les puissances financières aussi, capable de dépenser $500,000 sur un clip qui sera diffusé finalement que sur une seule chaîne. Donc MTV, ce qui paraît complètement dingue. La puissance de son label aussi, CBS, on l'a dit, qui a aussi menacé de ne pas filer les clips de Fleetwood Mac, par exemple, s'il ne passait pas Michael Jackson. Mais en plus de ça, on va pas se mentir, c'était du racisme. Hein. Y a pas forcément d'autres façons de le dire. Les programmateurs se justifient en disant que non, leur truc c'était plutôt le rock et regardez, on passe du Hendrix de temps en temps. Et en même temps,
Tina Turner.
Et voilà, exactement. Et en même temps, les belles heures d'MTV se faisaient aussi avec Duran Duran et The Human League. Donc non, ça tenait pas.
Et pardon, il y a aussi à ce moment-là un genre qui naît, notamment le rap, le hip-hop, qui commence aussi à être de plus en plus important. Et il y a une émission aussi qui va être consacrée au rap, c'est Yo MTV Raps.
I'm DJ Jazzy Jeff. Hey yo, I'm the Prince. And I'm Ready Rock C. Hold up, bust this. We wanna let everybody know where it's at. It's right here. Yo, MTV Raps.
I'm Jam Master J, this is Run DMC. And welcome to Yo, MTV Raps Show.
Yo, we get ready to an hour of new videos right here on MTV. We got the motherfucking crowd in the house, right?
Yo, check this out.
I came with the...
Un extrait du tout premier épisode donc, de Yo MTV Raps avec Will Smith et Run DMC. Est-ce que ça aussi, toi Olivier, qui commençait, j'imagine, à t'intéresser à ce genre-là de près, c'est un gros changement aussi même dans l'exposition que ça va donner au rap et au hip-hop à ce moment-là?
Ah bah clairement, puisque c'est la deuxième émission télévisée, puisque rappelons que la première était française, Achille Pachopé avec Sidney.
En 84.
En 84, première fois qu'un noir présentait une émission à la télé française en plus. Et Yo MTV Rap, oui, ça va être important parce que c'est après tous ces problèmes de couleur qu'a connu MTV, c'est enfin l'ouverture vers quelque chose où on reconnaît cette culture pour ce qu'elle est, quelque chose de fort, de puissant, qui a son émission à elle, avec d'ailleurs une Française dans la programmation, hein, Sophie Bramley. Voilà, qui va être dans la production.
Donc c'est très important. D'ailleurs créé pour MTV Europe avant que ce soit repris par MTV US. Donc
exactement.
Vraiment, Yo MTV Raps, c'est français.
C'est français,
si on me demande.
La France est décidément le deuxième pays du rap.
Et puis, dans ces histoires aussi de fusion, on parle de rap et rock, il y a forcément un moment qui est très important, qui a beaucoup été raconté. Mais comment passer à côté? C'est la collaboration entre Run DMC et Aerosmith. She told me how to walk this way. She told me to walk this way. Walk this way, donc avec un clip iconique. Qu'est-ce que ça représente, ça aussi, dans l'histoire de la chaîne et même dans l'histoire des deux genres, Jérémy?
Je pourrais peut-être pas trop parler dans l'histoire de la chaîne, mais en tout cas dans l'histoire des deux genres, c'est génial parce que c'est vraiment la rencontre des deux sur une même scène, en fait.
Ouais.
Il y a Aerosmith, tout cheveux, tout poitrail dehors, les guitares en avant, qui joue son morceau Walk This Way, et à un moment du clip, débarque les deux gars de Run DMC, ouais. Adidas au vent.
Qui pour les plus jeunes, c'est un groupe mythique, mais très très important à l'époque. Hein, il faut le savoir, c'est vraiment extrêmement important. Ouais.
Ouais. Et oui, vraiment. Et ce crossover-là était du jamais vu. Hein, mêler rock et rap, mêler les deux styles, vestimentaires. Vraiment, vraiment ça saute aux yeux dans ce clip-là. Aujourd'hui, ça peut peut-être paraître anodin, mais vraiment, en fait, il y a une espèce de choc visuel entre les deux qui est incroyable.
Et tu parlais d'Adidas, oui, c'est vrai que c'était emblématique de Run DMC, qui avait même un morceau qui s'appelle My Adidas.
My Adidas, et puis c'est la première collaboration entre une marque et un artiste musical.
Exactement, exactement. On continue évidemment à parler de MTV dans la régulière. Et alors, on parle des années 80, mais si on devait parler d'âge d'or, je pense qu'on peut parler des années 90 et 2000, où MTV s'installe comme une chaîne extrêmement importante, lance aussi un concept, les MTV Unplugged, qui sont des concerts live, pour certains qui sont devenus complètement mythiques. Je pense évidemment à Nirvana. Dans quelle mesure, à ce moment-là aussi, MTV devient une vraie chaîne avec ses émissions, avec ses rendez-vous incontournables? Elle dépasse le côté uniquement « je diffuse des clips ».
Les Unplugged de MTV, c'est peut-être le dernier grand acte de noblesse d'MTV envers la musique. C'est-à-dire que par la suite, ce sera principalement de la création de télé-réalité. Ouais. On aura l'occasion d'en parler.
Oui, bien sûr.
Et en même temps, c'est totalement dans l'esprit de ce que fait MTV depuis le début. C'est-à-dire dévoiler les stars et quelque part les désacraliser. Ça a commencé avec les clips. Ensuite, on leur enlève leur instrument. On les met à nu. Et la suite logique, finalement, des Unplugged, même si certains diront que c'est tiré par les cheveux, c'est les Osborne. C'est tout simplement Ozzy Osborne lui-même. En peignoir dans sa cuisine. MTV Cribs, exactement.
Oui, MTV Cribs, qui était une émission où on voyait les domiciles
dans la maison des stars.
Ouais, on a appris plus tard que c'est des baraques que souvent ils louaient pour l'occasion. Je suis désolé de le dire.
Certains découvraient leur maison au moment du tournage.
C'était pas la maison de Redman, c'est ça que t'es en train
de dire? Ils découvraient assez souvent leur maison au moment du tournage. Mais les Unplugged, oui, on peut citer évidemment le Clapton, évidemment le Nirvana. C'est vraiment McCartney, le premier, qui a donné ses grandes lettres de noblesse aux Unplugged. quand lui a décidé de l'éditer. En plus, il y en a énormément des Unplugged, donc oui. On a tendance à l'oublier, ils sortent pas tous dans le commerce. Mais vraiment, pour moi, ça correspond quelque part au dernier souffle du MTV originel. On a le droit de pas être d'accord, je suis évidemment un grand fan de Jackass, on va en parler, mais le MTV originel, il trouve vraiment son esprit une dernière fois dans les Unplugged.
Moi, j'aimais bien MTV Icon, dans les années 2000. MTV Icon, c'était, on prenait un artiste majeur de son temps et on faisait reprendre ses morceaux par toute une nouvelle génération. Et je pense, alors, moi, je parle pour ma génération et pour le style de musique que j'écoutais à l'époque, mais quand Metallica est passé à MTV Icon avec des reprises, pardon, géantes, mais de Sum 41, Avril Lavigne ou Limp Bizkit et Korn, ou Stained, pas mal de choses assez catastrophiques, mais je pense que dans l'œil de pas mal d'ados à l'époque, ça a bien tilté. Ouais.
Et puisqu'on parlait de Nirvana, je ne risque pas à l'idée de mettre un extrait de The Man Who Sold the World. Et alors, on l'a dit aussi, évidemment MTV, ce sont des clips, bien sûr, des programmes, mais aussi des événements, tu l'as dit, notamment les MTV Video ouais. Music Awards, avec parfois des moments extrêmement inattendus, et je pense évidemment à l'édition de 2009.
Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time.
On est en 2009. C'est
toujours aussi gênant.
La gêne.
Exactement. Quand c'est donc Taylor Swift qui prend la récompense du clip de l'année. Et donc Kanye, à l'époque où il s'appelait encore Kanye, et pas Ye, arrive sur scène et donc lui dit que c'est bien sympathique tout ça, mais que c'est Beyoncé qui aurait dû remporter le trophée en fait de clip de l'année. Est-ce que ce sont aussi ces moments-là qui font, mine de rien, rentrer aussi MTV encore plus dans la pop culture, ces moments que le monde entier voit et qui sont associés à l'image d'MTV, Olivier?
Bah bien sûr, comme le baiser de Britney Spears et Madonna, des images symboliques, des images fortes. Bon, c'est pas le mur de Berlin qui s'écroule, mais...
dans la pop culture.
En pop culture, exactement, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et évidemment, la télé est friande de ces moments-là, hein. comme l'a été, mais là on parle de musique, Michael Jackson faisant le moonwalk pour le CBS Special, Motown 25, c'est des moments, MTV a essayé d'en avoir le maximum, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voit bien que la musique ne suffisait plus. C'est d'ailleurs amusant de voir que peu de temps après la création de MTV, en France, quand il y a eu TV6, c'était censé être un peu le MTV à la française, et au bout d'un an, ils se sont dit, mais on peut pas, économiquement, avoir un modèle où c'est une télé où il y a que de la musique, et c'est devenu M6. Donc il y a eu, et MTV, on voit bien, aujourd'hui, ça ferme, mais ça faisait des années que la musique n'existait quasiment plus. Enfin, en tout cas, symboliquement, c'était effectivement beaucoup plus Jackass, The Real Life, tous ces trucs de télé-réalité.
Je pense que pour toute une génération, ça n'est même pas une chaîne musicale. En fait,
oui, c'est clairement, des gens qui l'ont découvert. Un peu des années 80 et 90 pour dire ça.
Exactement. Est-ce que si on reste encore sur l'image et les clips, est-ce qu'il y a une esthétique MTV? Dans les clips. Est-ce que la chaîne a réussi à imprégner une esthétique?
Ouais. Dans tous les genres musicaux, moi j'ai l'impression qu'ils ont imprimé une patte visuelle. On me dit ça, moi je pense à Hype Williams, réalisateur, le plus grand réalisateur de clips de rap, R&B, qui lui, vraiment tout ce qu'on dit clip de rap, c'est forcément un clip de Hype Williams qu'on a en tête, ou en tout cas un truc inspiré de Hype Williams. Ça, c'est sûr et certain.
Et même musicalement, il y avait le duo de producteurs The Hit Factory, qui...
C'est autre chose, Hit Machine.
Exactement.
Charlie et Lulu,
c'est une autre émission.
Il y avait un groupe qui s'appelait Top Boys.
Absolument.
Moi aussi, j'ai ma petite culture aussi, monsieur.
Les producteurs, donc, sous le nom de The Hit Factory, qui revendiquaient leur capacité à écrire des MTV hits. Alors, la recette, elle était assez simple. C'est un refrain catchy, une histoire simple à raconter, voilà. Mais ils le revendiquaient. Et il se trouve que oui, ça fonctionnait.
Bon, je propose qu'on écoute, Olivier, tu en parlais, le premier morceau qui était diffusé sur MTV, enfin le premier clip plutôt, c'est le morceau des Buggles, Video Kill de Radio Stars. On se l'écoute.
Ah bah oui, Trevor, voilà. On a la prod, ça se refuse pas.
Bon, c'est parti. Buggles, Video Kill de Radio Stars, un classique évidemment, qui a donc lancé la chaîne MTV en 1981.
Technology, and
Buggles, donc Video Kills the Radio Stars, morceau qui m'a donné envie de revoir le film Radio Star, Nico.
C'est un film que j'aime beaucoup, c'est
bah
un
moi
film
aussi.
Qui vieillit très bien, c'est une excellente comédie populaire française.
Très bien, mais on est aujourd'hui là pour parler de MTV.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Je dis ça parce qu'on entend ce morceau notamment dans le film Radio Star. Alors je voulais parler de quelques artistes qui ont un lien assez fort avec MTV, puis on en parle. Et je voulais commencer au début des années 90, quand le grunge explose et que Seattle devient le centre du monde, en tout cas un peu de la pop culture. MTV à cette époque filme tout, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains et bien sûr Pearl Jam. Donc en 92, leur Unplugged est un moment suspendu, pas de lumière criarde, pas de mise en scène, juste un groupe brut. Eddie Vedder pieds nus qui écrit Pro Choice sur son bras, c'est un des concerts les plus authentiques jamais diffusés sur MTV. Sauf que quelques mois plus tard, Pearl Jam en a marre, marre des caméras, marre du Star System, ils refusent l'équipe, boycottent MTV, refusent même de tourner. Leur message, c'est la musique d'abord, l'image ensuite. Un geste radical qui marque la fin aussi d'une époque, sûrement celle du rock à la télé, peut-être en tout cas dans les années 90. Ironie du sort, un de leurs plus grands succès restera le morceau Jérémy, diffusé en boucle sur MTV. C'est vrai que quand on parle de MTV, on pense beaucoup bien sûr au grunge et beaucoup à Nirvana. Pearl Jam, c'est aussi un groupe extrêmement important. Dans quelle mesure aussi ils sont associés à cette époque et cet âge d'or de la chaîne ?
Alors, ils sont de fait associés parce que, évidemment, MTV ne passe pas à côté du mouvement grunge. Et évidemment, MTV a aussi besoin de se nourrir de la concurrence de ces groupes pour son antenne. Donc, c'est Nirvana face à Pearl Jam, comme quelques années plus tard, ce sera Oasis face à Blur. Mm-hmm. Mais après, l'histoire de Pearl Jam avec MTV et avec la célébrité au sens large, elle est assez contrariée. C'est-à-dire que le Unplugged, il a failli ne pas avoir lieu. Ils étaient au cœur d'une tournée, ils étaient épuisés. Ils arrivent sur place, il n'y a pas les instruments qu'ils avaient demandé qui étaient prêts. Donc c'était très compliqué. D'ailleurs, c'est une histoire aussi contrariée parce que c'est un Unplugged vénéré, mais qui aura mis du temps avant d'avoir une sortie officielle. Et finalement, Pearl Jam, ils disent qu'ils arrêtent les clips. Ils y sont quand même très très vite revenus. Ils ont eu aussi, globalement, ils ont une histoire compliquée avec la tournée des stades, avec l'image, tout ça. Donc, évidemment que le grand MTV du début des années 90, ça avait du mal à coller. C'est normal.
Alors, fin des années 90, MTV est partout, sur les murs, à la radio, dans les chambres d'ado, et au milieu de ce cirque débarque une forme de rappeur, clown, génial, Eminem, blond platine, sarcastique, incontrôlable. Il comprend mieux que personne que pour survivre dans la société du spectacle, il faut la tordre. Ses clips sont des mini-films, lui aussi, parodie, clash, déguisement, punchline visuel. Il moque Christina Aguilera, Carson Daly, Britney elle-même, toute la pop culture de l'époque. Il joue avec MTV comme avec une marionnette, tout en se servant d'elle pour devenir, à l'époque, la plus grande star du monde. Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up, cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up. Donc Eminem, c'est MTV à son apogée, provocateur, drôle, transgressif et grand public à la fois. La chaîne qui avait lancé UMTV Raps trouve en lui son monstre parfait, le rappeur blanc, provocateur, doué, qui fait exploser les audiences. Ça, c'est un extrait du morceau Without Me, dans lequel il cite justement MTV. Dans quelle mesure aussi Eminem a eu peut-être besoin d'MTV pour être la star qu'il est devenu, Olivier ?
Bah parce que, comme tu le rappelais, ces clips sont inventifs, provocateurs, mais juste ce qu'il faut. C'est, à un moment, accusé d'être homophobe, et puis la réaction, ça a été un duo avec Elton John, qui était quand même une belle façon de répondre. Et puis oui, c'est quelqu'un qui aime bien la provoque. Alors, tu parles Christina Aguilera, Britney Spears, mais même Michael, hein.
Bien sûr.
Son clip.
Sur le morceau Just Lose It, exactement.
Voilà, où le faux Michael perd son nez, qui cherche par terre. Enfin, c'est assez cruel et amusant à la fois. Puis c'est comme tu disais, le monstre parfait. Il est rappeur, mais il est blanc. méchant, il est provocateur, mais il a des tubes grand public, il couvre tous les angles et il arrive à effectivement être non pas la créature de MTV, puisque en fait il a un rapport d'amour et de haine, mais comme on le voyait même avec Pearl Jam, c'est pareil, c'est un moment quand on est la star d'une chaîne, on va à un moment dire oui, mais il n'y a pas que ça non plus.
Ouais.
Donc évidemment, Eminem va beaucoup plus loin que une création MTV, mais MTV a contribué avec tous les MTV Awards jusqu'en 2024. Hein, c'est des Houdini, il l'a chanté encore une fois, donc c'est vraiment, ouais, c'est le guest idéal pour une chaîne comme MTV.
Exactement.
Et ouais, puis cette musique sur MTV en tout cas.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis il y a Britney Spears, l'enfant star qui devient un mythe devant nos yeux. Elle débute à 17 ans avec Baby One More Time, un clip ultra diffusé sur MTV. À chaque étape de sa carrière, la chaîne est là. Ses clips, ses lives, ses interviews et même ses scandales. Quel tube parfait quand même. Quel tube parfait. Et donc le moment le plus marquant dans sa relation avec MTV, c'est peut-être les VMAs en 2001 où Britney arrive avec un serpent autour du cou, danseuse et symbole à la fois. C'est l'image parfaite de MTV, le glamour, la transgression, la fascination. Sauf qu'à force d'être une icône visuelle, Britney finit par se consumer dans ce miroir. La télé la met sur un piédestal, puis la regarde tomber. C'est un clip d'ailleurs de morceau de Every Time dans lequel on la voit se noyer un peu comme une prémonition, une métaphore de sa carrière. Est-ce que finalement Britney, elle n'est pas aussi liée quelque part à la fin de l'âge d'or musical d'MTV, parce que c'est peut-être la dernière grande pop star de MTV en tant que chaîne musicale, Jérémy?
Bah ouais, elle représente à la fois le meilleur, enfin si on peut dire le meilleur de MTV, c'est-à-dire qu'elle est un peu née sur cette chaîne comme comme beaucoup d'autres artistes, mais vraiment symbole de fin 90 début 2000 comme Eminem d'ailleurs. Tout Eminem l'a clashé dans certaines chansons.
Et, il adore MTV, clasher les pop stars, ouais, bien sûr. Femmes.
Hein. C'est oui, c'est un petit truc, ouais. Mais voilà, mais du coup, en fait, MTV se nourrissait évidemment de ça. Et donc, Britney Spears qui débarque avec Oops, I Did It Again. Et puis ensuite, qui fait, enfin, toutes ces chansons clippées, évidemment, se retrouvaient en rotation lourde sur MTV. Et c'était, c'était pas qu'un produit MTV, évidemment. Une artiste à part entière et une super artiste.
Mais, comme Eminem, mais poussée
évidemment par MTV. Et donc, ensuite, à force les différentes déclinaisons de MTV, donc les VMA, évidemment, on en a parlé, le baiser avec Madonna, quand elle débarquait avec Justin Timberlake, tout de jean vêtu.
Légendaire.
Légendaire. Ça représente à la fois le meilleur, mais aussi le pire, évidemment, puisque du coup, le côté people et la déchéance l'année terrible de Britney Spears. Si Britney a survécu à 2007, on peut tous aller au bout de cette journée-là.
Et en même temps, la chute de Britney Spears correspond aussi à la chute de MTV, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le spectateur, le téléspectateur, mais pas uniquement, le spectateur également sur Internet, ne pouvait pas se contenter des images que le label validé ou que la chaîne validée. C'est-à-dire qu'on a commencé à assister à la chute en direct via des images volées de Britney Spears, exactement également au moment où les artistes manufacturés et validés par les labels ne nous suffisaient pas et où donc on a eu besoin, nous spectateurs, de davantage de voyeurisme.
Oui, et ça ramène aussi une transition finalement vers ce que va devenir un peu après MTV. Et allons-y tout de suite. À quel moment, du coup, MTV n'est plus une chaîne musicale? On en parle tout de suite. Et peut-être que je peux commencer par me tourner vers toi, Nico, parce que je sais que tu as été un grand consommateur des programmes notamment non musicaux d'MTV dans les années 2000. Et justement, comment MTV change et comment MTV devient finalement une chaîne de divertissement?
Alors, MTV a pas changé du jour au lendemain. Il faut savoir que dès 1984, MTV envoyait déjà des reporters couvrir le Spring Break et donc ramener des images de femmes en maillot de bain et de jeunes ivres-caisses. Donc, le passage à la télé-réalité, il s'est vraiment pas fait au tournant des années 2000, comme on pourrait le penser. Ceci étant dit, il y a eu évidemment, bien évidemment, The Real World. The Real World, c'est, je crois qu'on est sur 45 saisons, quelque chose comme ça.
En 92.
Voilà, exactement. Et là, on est vraiment très 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 tôt. On est aux prémices de la télé-réalité et MTV évidemment s'engouffre là-dedans. C'est-à-dire que encore une fois, c'est la suite logique. On a déshabillé les musiciens de leurs vêtements. Bientôt, on va les filmer dans leur salon. Évidemment, des anonymes, on peut mettre des caméras dans leur chambre. Ça ne pose absolument aucun problème. Et ça a été The Real World. Ça a été immense aux États-Unis, ça a été voilà. Et donc évidemment MTV, ils sont pas débiles, ils regardent les chiffres, ils se rendent compte que ça coûte rien, ils se rendent compte qu'ils peuvent produire eux-mêmes, qu'ils ont pas à dealer avec les égos puisque ces personnes sont des anonymes, ils ont pas à dealer avec avec les labels. Les donc évidemment, ils s'engouffrent là-dedans et ça aura donné on commençait à essayer dans les citer hors antenne mais on saurait même pas voilà, même pas toutes les citer, les émissions bon marché.
Quelques émissions les plus connues dans le bon Jackass évidemment,
bien sûr.
Next, Pimp My Ride, Exhibit, voilà. Dirty, exactement. Jackass qui avait
quand même une forme de un label cool mm-hmm. puisque il y a Spike Jones à la création et surtout il y a Ben Margera qui vient du skateboard, donc voilà, il y a quand même toute une culture qui vient avec. Et puis il y a une vraie écriture dans Jackass qui avait pas forcément dans des programmes comme Pimp My Ride ou Ridiculousness.
Et Johnny Knoxville qui va se retrouver après dans les films de John Waters aussi.
Tout à fait. Qui était le leader après, de Jackass, ouais. Sa figure ouais. la plus visible.
S'enfonçait des clous dans les testicules, ce genre de.
Ah, c'était plutôt bon, Dirty Sanchez, ça.
Oui, c'est non, c'est
Jackass, mais non, pas trop.
C'était pas la mayonnaise dans les baskets, ce genre
de. Moi, je me souviens de certaines scènes avec Steve O, donc qui était un des membres de Jackass, qui était pas loin de ça. Hein. Je vais pas la citer ici par décence. En tout cas, non, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté, en tout cas, de choc, en tout cas, de provocation dans ces programmes-là. Puis Next, qui était un programme de dating, je crois.
Ouais, c'est exactement. Ça,
hein.
Ouais, ouais.
Qui est rentré dans le langage courant. Hein. Next, je passe au prochain. Bah ouais, c'est ça. C'est ouais. Je passe au prochain date ou au prochain truc. Next.
Une question finalement. Est-ce que aussi donc MTV, finalement, ces dernières années, on l'a dit, n'était plus vraiment... Enfin, il y a des chaînes musicales qui existaient, mais étaient moins connues pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Olivier, ça a encore du sens, quelque part, de penser, en termes de chaînes musicales, à l'heure des réseaux, du streaming, de TikTok, de YouTube, elle est ouverte pour tout le monde, et bien sûr de YouTube. Moi, je me souviens, pendant longtemps, YouTube, pour moi, c'était... Je n'y allais que pour l'équipe. Je savais même pas qu'il y avait autre chose sur YouTube. C'était tellement une mine extraordinaire.
Tu t'es bien rattrapé.
Je me suis bien rattrapé. Oui, depuis, je consomme le contenu de Squeezie, évidemment, Nico. Mais à l'époque, c'était essentiellement des vieux clips que je regardais en boucle. C'était extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça a encore du sens, quelque part? Et est-ce que, finalement, la décision d'MTV, de Paramount, elle n'était pas prévisible?
Oui, c'est logique, parce qu'évidemment, il y a Internet, maintenant, et c'est vrai que faut aussi savoir que, par rapport au problème de droit, c'est quelque chose qui est très complexe. Diffuser un clip, si tu fais un documentaire ou une émission de télé, faut savoir que ça coûte extrêmement cher, c'est complexe, faut payer plein de gens, il y a des mecs qui sortent du bois, qui ont réalisé trois images, qui disent « Ouais, je suis mes droits éternels à la création !» Donc bon, et par contre, Internet s'en fout un petit peu de tout ça. Ouais. Celui qui ferme une chaîne peut la rouvrir ailleurs. Et c'est vrai que, comme tu le disais, le clip envoie, si on parle de rap français, PNL a explosé avec 20 millions de vues au début de Monde ou Rien. C'est pas sur MTV que ça s'est passé. Hein. Je veux dire, il y a d'ailleurs ni Jul, ni PNL, ni tous les artistes qui cartonnent maintenant ne seraient passés sur MTV à aucun moment de la création de cette chaîne. C'est ça qui est marrant. Internet a amené une plus grande liberté. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté de programmer Michael Jackson en 82-83 sur MTV. Mais c'est vrai que quand on voit les artistes d'aujourd'hui, aucun n'aurait passé le filtre des chaînes comme MTV ou des maisons de disques. Donc il n'y a plus de sens d'avoir une chaîne comme MTV aujourd'hui, je pense.
Nico. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'ironie, c'est que Video Kills the Radio Star et au final, la radio aura fini par killer quelque part MTV, la radio personnelle, c'est-à-dire nos propres playlists. Mmh. Mais surtout, il faut quand même le rappeler, MTV a totalement raté le coche. C'est-à-dire que Viacom a porté plainte contre
Viacom,
YouTube. Voilà, exactement.
Qui
possède MTV. À l'arrivée de YouTube, a porté plainte contre YouTube, a essayé de faire fermer YouTube, c'est comme porter plainte contre le futur, j'ai envie de dire, alors que, très très clairement, il y avait quelque chose à faire. Et malheureusement, MTV a raté ce coche-là. Ouais.
Et Jérémy, la question elle est terrible, mais est-ce que l'équipe, finalement, à l'heure de TikTok, etc., et donc des formats de plus en plus courts, est-ce que ça a encore du sens, en tout cas, tel qu'on l'imagine historiquement?
Le clip, c'est, moi j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, mais que c'est plus... quelque chose de promotionnel en fait, c'est plus quelque chose, faut pas l'oublier quand même, on parle de clip depuis tout à l'heure, c'est quand même
on est là pour vendre un morceau,
on
ou un
vend
album.
Un morceau, on vend un album et on vend un artiste, donc c'est avant tout de la pub, de la réclame. Au début, c'était quand même, on pouvait quand même en faire un objet artistique. On s'est rendu compte que ça aidait à vendre des singles. Bon voilà, du coup c'est comme ça que la bascule s'est faite. Et en fait aujourd'hui, je pense qu'on est revenu un peu à ce truc-là de faire des objets artistiques. Donc évidemment que les artistes, les plus gros vendeurs ont plus vraiment besoin de vidéoclips. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. En fait, les plus gros artistes ne produisent quasiment plus de clips.
C'est vrai.
On peut s'engouffrer dans ce sujet-là et en parler pendant deux heures, en fait, de comment les artistes gèrent leur image à travers le clip ou à travers d'autres vecteurs, et notamment TikTok. Je perds un peu le fil dans ma pensée pour revenir au clip. Mais aujourd'hui, donc, ça redevient un objet artistique. Et en fait, quand tu ouvres YouTube aujourd'hui, TikTok à moindre raison, mais YouTube aujourd'hui, en fait, tu peux toujours tomber sur des artistes, à la fois des vidéastes, hein, des gens derrière la caméra, mais aussi devant la caméra, qui ont des idées absolument dingos. Il y en a plein, mais c'est surtout, j'ai l'impression, dans la musique indépendante, quelle qu'elle soit, hein, et d'ailleurs sur tous les continents, parce que hier je suis un peu allé diguer, mais en Inde, en Afrique, au Japon, on fait des trucs absolument dingos. C'est pas des scènes ou des artistes qu'on avait l'habitude de voir sur MTV, évidemment. Et aujourd'hui, je pense que c'est redevenu un objet artistique dont les artistes se saisissent pour faire de l'art.
Olivier,
ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que avant le clip c'était une aventure, c'était des budgets incroyables. Aujourd'hui, moi j'ai une anecdote, j'ai un ami qui s'appelle JG Bix, qui est réalisateur, il a fait une centaine de clips de rap français, tout le monde sauf Booba, comme il dit. Et il y a quelques années, il me dit putain, j'étais sur le coup pour un clip de rap, j'avais une proposition à 2000 euros. Et il y a un mec qui a proposé pour 500 euros. Donc quand on pense que des clips comme Thriller, c'était $1 million en dollars de 83, aujourd'hui tout est dévalué. Mais en même temps, ça permet une création qui est plus liée au budget faramineux qu'il y avait à l'époque d'MTV. Et on peut avoir des clips fauchés, mais qui ont une image, qui proposent quelque chose qui fait que c'est plus une question d'argent, c'est une question de créativité. Ouais. Mais c'est vrai que la mythique du clip, aujourd'hui, elle a disparu, puisque tout le monde fait de l'image, même la radio.
Je crois qu'on en revient au fait qu'un clip, ça peut être, et c'est peut-être ça qu'on aime, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est le concept avant toute chose, en fait. C'est que tu as un concept, tu essaies de l'étirer sur 3, 4, 5 minutes, voire 12 minutes si jamais t'as un peu le budget et le temps, de se focaliser sur un concept. Et en fait, moi je pense que les plus grands réalisateurs ou réalisatrices de clips qu'on a tous en tête, c'est vraiment des gens qui avaient des concepts et qui les tenaient jusqu'au bout.
Alors tu me fais une transition parfaite pour le morceau qu'on va écouter, qui a un concept, en tout cas son clip a un concept, et qui aurait pu être diffusé sur MTV à sa grande époque. C'est un morceau de Doshi, Denial is the River. Le clip est extraordinaire, j'encourage tout le monde à aller le regarder sur YouTube et à écouter par la même occasion son album Alligator Bites Never Heal. On écoute tout de suite Doshi avec ce morceau exceptionnel.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doshi?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow, it's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slicked back till I slipped back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No.
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me, don't wanna have to turn a nigga guts into soup.
Whoa, 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 whoa. Okay, Doshi, we don't want to revert back into our old ways.
Let's go.
On vient d'écouter donc Denial Is The River, morceau de Doshi, rappeur signé sur le label Tidy, l'ancien label de Kendrick Lamar.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nico, oui. J'ai envie de poser une question comme ça au début.
Allez.
Est-ce qu'on peut dire, toi, qu'un connaisseur, un appréciateur, quelqu'un qui apprécie la pop culture, est-ce que MTV, quelque part, a un peu inventé la pop culture moderne? Est-ce que finalement... elle n'a pas donné l'impulsion, en tout cas, à ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture dans son métissage, dans la manière dont elle a mélangé finalement des choses très différentes.
Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, évidemment que MTV a contribué. Alors, elle n'a pas fabriqué les rockstars, elle n'a pas fabriqué non plus le clip, mais elle les a industrialisés. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas nier l'importance d'MTV, même encore aujourd'hui dans le schéma actuel. Quand on parlait des labels indépendants qui aujourd'hui mettre les moyens et mettre les efforts pour réaliser des clips, c'est aussi parce que il y a derrière une possibilité de diffusion et cette possibilité de diffusion, elle existe grâce à MTV. Et en même temps, paradoxalement, MTV n'a jamais réussi à s'adapter à ce qui est quelque part la vraie pop culture moderne. Alors, on sera pas forcément d'accord toi et moi, Mehdi, parce que je crois que tu avais écrit récemment que les niches n'existent, qu'aujourd'hui, on était plutôt dans la culture de niche.
Ouais, tout à fait.
Alors que selon moi, il y a plus de communauté. Selon moi, aujourd'hui, justement, la communauté n'existe plus et MTV a jamais vraiment réussi à s'adapter à ça. C'est-à-dire que MTV n'a jamais réussi à être autre chose qu'un espèce de gros robinet musical pour absolument tout le monde tout le temps, là où justement il aurait fallu renouveler tout simplement.
Ou éditorialiser les choses,
éditorialiser.
Ce qu'ils ont commencé un peu à faire avec les chaînes.
À faire avec les chaînes, mais finalement c'était
MTV avait plusieurs déclinaisons, on
les comptait plus, mais c'était quelque part, c'était un aveu d'échec, en vrai, justement, de devoir créer des chaînes supplémentaires.
Pour
au final perdre encore de l'audience, voilà, c'était un peu... Oui, elle a façonné, cette chaîne a façonné la pop culture moderne, et non parce qu'elle a grandement échoué à rester pertinente dans cette pop culture moderne.
Comment aujourd'hui, indépendamment d'MTV, on peut faire de la curation musicale? Olivier, toi qui aussi a été rédacteur en chef de magazine, à une époque tu l'as souvent raconté, où mettre quelqu'un en couverture d'un magazine, ça avait un impact direct. Aujourd'hui, dans cet excès de communication, les réseaux, comment on peut encore faire de la curation musicale aujourd'hui?
C'est difficile parce qu'effectivement on voit bien avec le succès des artistes urbains, comme on dit, il y a plein de gens qui ne les connaissent pas. C'est ça qui est extraordinaire, que quelqu'un comme Ninho, de Stade de France, tu demandes à quelqu'un dans la rue qui est Ninho, 9 sur 10 te diront « je ne sais pas de qui vous parlez, monsieur, laissez-moi tranquille ». Alors qu'à une autre époque, un Booba, par exemple, quand il faisait la Starac, c'était un événement national.
Parce que la Starac était aussi un moment fort que
exactement.
La France regardait. Oui.
Et son passage a suscité beaucoup de remous médiatiques. Mais aujourd'hui, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Moi, je suis pas d'accord avec Nico, dans le sens où justement, j'ai l'impression qu'il y a ces espèces de bulles où on a des gens qui ont des succès, mais qui sont des succès uniquement liés à leur communauté, les gens qui les suivent, et il y a plus, en fait, ça revient à l'idée de dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de stars, en tout cas plus de stars globales en France, en tout cas il n'y a pas quelqu'un, alors quelqu'un comme Aya Nakamura va être un petit peu celle qui va aller au-delà de ça, qui va être pour des bonnes ou des mauvaises raisons identifiée par plein de gens, mais la curation musicale c'est difficile parce qu'on a des artistes qui ne parlent plus aux grands médias, qui se concentrent sur leurs fondamentaux à eux, et du coup il y a plus des gens sur qui tout le monde se retrouve et que tout le monde connaît, il y a des petites niches comme ça, à droite à gauche. C'est différent.
Nous sommes à la merci des algorithmes.
Exactement.
Voilà, c'est ça le futur, finalement, quelque part. Bon, messieurs, c'est l'heure de la question qui tue. Elle est simple, vous la voyez venir, vous avez droit chacun à une réponse. Quel est, selon vous, le plus grand clip de tous les temps? Olivier, vas-y Olivier.
C'est facile, Thriller. Évidemment, parce que
il y a pas de débat.
Pour la symbolique, pour la réalisation, pour la façon dont ça vieillit, parce qu'on le regarde encore aujourd'hui, c'est fou. Donc oui, Thriller.
Pour toi, il y a pas de débat, c'est évidemment. Je pense que c'est clairement la réponse la plus logique, en tout cas quand on. Mais Nico n'est pas d'accord.
Non, si. C'est compliqué de dire que ce n'est pas le plus grand. À tout point de vue, financièrement, en termes d'impact, on est bien d'accord. Mais justement, j'aimerais proposer, pour ne pas répondre Thriller, même si je suis d'accord avec toi, Olivier.
On
je vais répondre avec un clip un petit peu voisin, un petit peu cousin. C'était le clip de Ghost, de Michael Jackson. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Il se déguise en gros blanc méchant,
exactement,
maire de la ville.
Exactement, qui était également un moyen-métrage, qui avait une diffusion événementialisée à la télévision.
Avec un rendez-vous. rendez-vous. Ouais.
Voilà, c'était un vrai rendez-vous. Des choses aujourd'hui, plus personne ne s'asserrait devant la télévision.
Je me demande si c'était pas diffusé sur Canal.
Un clip. C'est possible, c'est possible. Du coup, évidemment Thriller, mais en deuxième, je répondrai à celui-ci.
Non, mais ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'artistes qui seraient capables, effectivement, d'événementialiser la sortie d'un single ou d'un.
Alors, Thriller est passé sur Champs-Élysées. Ouais. On était avec des potes devant la télé et le salon à chaque fois disait bientôt le clip. On a attendu une heure et demie. Quand pour lui, c'était.
Je suis retombé sur des vieilles images pour la série. Pardon, je prends juste une minute pour raconter ça, mais pour la série que j'ai fait sur le clip, je fais un peu ma promo chez Télérama. Je suis retombé sur des vieilles images de Michel Drucker à Champs-Élysées. En fait, effectivement, il y a ce truc-là. Et en fait, il dit une cassette promotionnelle. Voyez comment font les Américains. Et c'est assez génial.
Avec le jargon,
assez génial. Moi, je ne rentrerai pas dans ces débats, messieurs, de grand clip. Si j'en ai évidemment, comment ne pas dire Thriller, évidemment, puisque c'est vraiment le maître étalon, le truc fondateur. Moi, je vais parler avec mon petit cœur de fan. Moi, je suis tombé un jour avec. J'avais laissé tourner une cassette sur MCM et je la repasse le lendemain et je tombe sur Everlong des Foo Fighters, réalisé par Michel Gondry. Et je pense que il y a eu un avant et un après pour moi dans mon amour du clip. Et ce petit objet court métrage de Michel Gondry avec tout ce qui fait la patte de Michel Gondry, c'est-à-dire le bricolé. Alors, il aime pas qu'on dise que c'est bricolé, mais en tout cas le fait main, l'amour de l'image, de la trouvaille visuelle du concept que tu tiens pendant 3 minutes, avec moi un morceau qui me parlait quand même beaucoup à l'époque. Je trouve que c'est quand même pour moi peut-être un des plus beaux clips, un de mes préférés, un des clips que je trouve le plus beau.
Michel Gondry qui effectivement a fait plusieurs clips,
hein, oui,
et notamment parce que je parle tout le temps des Daft Punk dans cette émission.
Moi,
le clip de Wonderworld,
qui est vraiment un truc.
Je danse le Mia d'Ayam.
Mais oui,
et on avait parlé d'ailleurs ici avec Gilles Lelouch, qui lui aussi vient du clip, quand on parlait justement de certains réalisateurs qui avaient commencé dans le clip, qui ensuite sont passés au cinéma. Gilles Lelouch qui avait notamment clippé pour MC Solar.
Exactement.
Ouais. Et NTM. Et oui, voilà. Il y a c'est beaucoup Spike Jonze qui vient
bien
du
sûr,
clip, David
sûr,
Fincher.
Bien sûr.
Oui,
et une émission entière,
au grand réalisateur.
Mais celle-ci, malheureusement, touche à sa fin. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Olivier Cachin. Merci Nico Prince. Merci Jérémy Maire. Et merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Alex Lacour, Redouane Tella, réalisé par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Élise Christophe et Maxime Goudard. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons avec Ronisia dans l'émission. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.